Cet épisode a été rendu possible grâce au CNC et à nos partenaires. Un grand merci à eux.
Écoutez les amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on accueille notre invité politique cette semaine, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune. Bonsoir. Bonjour. Clément Beaune.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. C'est la deuxième fois que vous veniez. Vous
oui.
étiez déjà venu sur le plateau de Backseat. C'était juste entre, au moment des élections législatives. Vous étiez d'ailleurs candidat à l'époque à Paris. Et à l'époque, vous y étiez ministre délégué, mais aux affaires européennes.
Oui.
Et là, vous avez depuis changé de portefeuille. Vous voilà aux transports. Pourquoi les transports? J'ai beaucoup de mal à m'y faire, je vous avoue.
Une passion, vraisemblablement.
Pourquoi les transports?
Ouais, pourquoi pas. Pourquoi les transports? Parce que quand j'ai fait quelques mois, même quelques années sur les sujets européens,
ouais.
qui restent évidemment ma grande passion, je me suis dit, je pourrais avoir fait une expérience politique sur un sujet que j'aime bien, etc. Ou est-ce que j'ai envie de rester dans cette action-là et de savoir faire un peu d'autres choses aussi? Et pour moi, il y avait un peu deux conditions. C'était d'être élu, parce qu'on est légitime qu'on est élu.
Et vous l'avez
et donc,
été
je l'ai été, c'était dur, mais quand j'étais venu chez vous, effectivement, c'était juste pendant la campagne, je crois, ouais, juste ouais. avant les élections. Et c'était voilà, une belle victoire à l'arraché en juin 2022. Et puis après, je voulais, et puis c'est aussi les choix du gouvernement, faire quelque chose de plus local, de plus concret, de plus quotidien, parce que l'Europe, c'est parfois un peu abstrait pour beaucoup de gens. Et voilà, et j'apprends aussi des
donc
choses
vous vous
sur le dialogue social.
Vous vous sentez plus dans le
oui,
concret
franchement,
que,
oui,
bah, que les affaires européennes, où ça phosphore un peu dans des
oui,
bureaux
Oui, même si j'ai essayé de dire que, et de montrer que l'Europe, c'était okay. pas justement abstrait, que c'était la pêche, l'agriculture, que c'était les vaccins, que c'était malheureusement le soutien à l'Ukraine pendant la guerre, et que c'est encore le cas. Et je me suis battu pour essayer de montrer justement que l'Europe, c'était pas un truc qu'on faisait qu'à Bruxelles dans des réunions ouais. un peu ennuyeuses. Mais le transport, c'est du dialogue social, c'est, on en parlera peut-être, les galères du quotidien.
Ouais.
Aujourd'hui,
ah oui,
on voit dans le RER.
Parler.
C'est les Jeux Olympiques à organiser, c'est plein de choses. Donc voilà, moi
mais
je suis
content
de pouvoir aussi faire ça.
Vous comprenez que ça puisse interroger, voire que ça puisse susciter des critiques, le fait que l'on change comme ça de portefeuille ministériel, un peu en claquant des doigts, comme si finalement on pouvait être compétent dans tout. Est-ce que, enfin, vous vous rendez compte de l'image que ça peut renvoyer du politique?
Oui, je sais. C'est toujours le même débat. D'ailleurs, dans tous les gouvernements, ouais. on a un mix, si je puis dire, avec des spécialistes, des experts, parfois le médecin de la santé, le juge de la justice, etc. Et puis, qu'on appelle, même si ça ne veut pas dire grand-chose, des politiques qui font mmh. différents portefeuilles. Quand on regarde, en pratique, l'histoire des ministères, il n'y a pas de règles. Hein. Au transport, par exemple, j'ai un prédécesseur qui est Dominique Bussereau, je ne sais pas si voilà, les plus vieux peut-être le connaissent encore, qui a été un super ministre des Transports. Il n'était pas un pro du secteur au départ, il est devenu, il est encore hyper respecté. Et puis il y avait des gens comme Elisabeth Borne ou comme Anne-Marie Drac, qui n'est que deux femmes ministres des Transports, qui, elles, venaient du secteur, mmh. connaissaient déjà très bien, et puis on fait aussi autre chose après. Donc franchement, je pense que c'est bien aussi qu'on ne résume pas la politique, c'est l'autre critique qu'on entend, à un truc d'expert. Moi, j'ai été dans un ministère, j'ai été fonctionnaire, haut fonctionnaire, comme on dit, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais la politique, c'est autre chose. C'est savoir non pas faire n'importe quoi et tout faire, ce n'est pas ça l'idée. C'est se mettre dans les dossiers, avoir une vision des choses, essayer de bouger justement un peu l'administration, ce qui va ou
d'accord.
ce qui ne va pas.
On va en parler.
Donc voilà, je pense que c'est important
aussi. Il y a quand même pas mal de sujets. Il y a quand même pas mal de sujets.
Après, c'est bossé, on devient un peu expert.
On vous présente quand même assez régulièrement comme étant l'un des tenants de la jambe gauche du gouvernement.
On peut dire ça.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Moi, je
ne
qualifie pas
de
jambe ou d'aile, mais on a tous d'abord des convictions et puis un parcours.
Et vos convictions à vous, elles
politique.
Sont à gauche?
Oui, moi j'ai l'impression, c'est ce que je me demande chaque semaine, que je n'ai pas changé sur l'essentiel depuis que j'ai une vingtaine d'années, que j'ai une conscience politique et que je vote. J'ai voté à gauche dans les élections présidentielles avant Emmanuel Macron. J'ai bossé, c'est comme ça que j'ai connu Emmanuel Macron, dans des cabinets ministériels à gauche, avec un Premier ministre de François Hollande, Jean-Marc Ayrault, avec Emmanuel Macron qui était ministre de François Hollande à l'époque. Et j'ai toujours été de ce qu'on appellerait social-démocratie ou centre-gauche. On aime, on n'aime pas, mais ça a toujours été ma conviction et ça le reste.
Malak,
et après, juste là-dessus, la politique, c'est aussi un peu une culture, un héritage. Moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait des choses comme la laïcité, comme l'engagement européen, comme la lutte contre les inégalités, comme l'égalité des droits, qui étaient très importants, qui sont la gauche et peut-être plus largement que la gauche, j'espère, mais voilà, qui m'ont marqué et qui restent mes valeurs et mes combats.
Malak,
vous avez votre parcours, vos convictions, mais vous servez un président de la République et un gouvernement, celui d'Emmanuel Macron. On dit qu'il y a donc deux jambes, une jambe gauche, une jambe droite, vous n'êtes pas trop d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas une jambe gauche et une jambe droite. C'est-à-dire que le macronisme est un peu unijambiste, il n'y a qu'une seule jambe droite. Donc je vais vous poser la même question que j'ai posée à Roland Lescure il y a deux semaines. Qu'est-ce que vous foutez dans ce gouvernement?
Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas qu'il y ait, comme on dit, un gouvernement de droite ou une dérive vers la droite. On entend tout ça.
Les faits parlent pourtant, monsieur le ministre.
Non, moi, je ne crois pas. D'abord, quand vous regardez ce que propose un parti de droite, on va dire les Républicains, qui se revendiquent de droite, qui a des gens qui ont fait tout leur parcours politique à droite, on ne propose pas la même chose. On a un débat, par exemple, sur l'aide médicale d'État aujourd'hui. Bon.
Historiquement, c'est plutôt une proposition du FN, nouveau RN, la suppression de l'AME. C'est plutôt les Républicains qui se sont rabattus sur la position du RN.
Ça, c'est vrai aussi. Je trouve que parfois, ils courent trop après l'extrême droite et le RN, c'est clair. Mais l'AME, moi j'ai bossé au ministère des Finances quand j'étais plus jeune, c'était une proposition chaque année de certains députés de droite, de l'UMP à l'époque. Donc ce n'est pas complètement nouveau. Bon, moi je trouve que c'est un faux débat, parce que ça ne fait pas venir, les gens ne traversent pas la Méditerranée pour risquer leur peau pour l'AME, ce n'est pas vrai. En plus, même si on ne croit pas à l'argument moral, il faut regarder l'argument pragmatique. En fait, si vous soignez les gens plus tôt, c'est mieux pour tout le monde, pour eux évidemment, et pour la collectivité, parce qu'il y a moins de maladies qui peuvent être contagieuses, qui se répandent, etc., etc. Et à la fin, on sauve les gens en France, heureusement. Donc, il vaut mieux les prendre en charge tôt. Bon. Donc ça, ce genre de débat. Et même parfois, on pèse pour dire, on a été beaucoup de ministres et de députés à dire, attention, l'AME, c'est très important, c'est aussi un symbole. Et quand on regarde ce qu'on a fait, par exemple, sur l'Europe, je prends le domaine que j'ai beaucoup suivi, franchement, quand vous regardez autour de la table des sommets européens, quand vous ne savez pas les étiquettes des uns et des autres, Emmanuel Macron, il est souvent sur des positions plus de gauche que beaucoup de gouvernements où il y a des verts, où il y a des sociaux-démocrates.
On est toujours à la gauche de quelqu'un, monsieur le ministre.
Non, je ne parle pas de la gauche de quelqu'un. Je parle de sociaux-démocrates espagnols ou de verts suédois, etc. Je l'ai vu sur l'écologie. C'est nous qui avons défendu, par exemple, l'interdiction de vente des voitures thermiques après 2035. C'est une grosse mesure écologique. On l'a fait au niveau européen. C'est nous qui avons construit le plan de relance qui a sauvé plein de petites entreprises pendant la crise économique. Donc, regardons aussi un peu ce que veut dire la gauche à l'échelle européenne, la social-démocratie à l'échelle européenne.
Ça se rapproche souvent,
on est dans ces combats-là.
Léa.
Vous disiez tout à l'heure, avant la présidentielle, Emmanuel Macron, je votais à gauche. Vous votez encore à gauche aujourd'hui?
Je vote Emmanuel Macron, qui est...
qui est à gauche.
Comment?
Qui est à gauche, selon vous?
Je ne pense pas qu'on définisse justement le Macron.
Attendez,
moi je suis très à l'aise dans cette majorité.
Il est non-euclidien.
Mais on ne se définit pas comme étant un parti de gauche. Comme étant un parti, certains disent du centre, certains disent en même temps, du dépassement. Moi, j'aime pas trop cette définition-là, parce que dépassement, ça donne un peu l'impression qu'on est parti très très loin. Mais oui, c'est
sûr. Vous êtes parti très très loin, monsieur.
Non, je crois pas. Je vais vous ramener un peu ici, on parlait de Thomas Pesquet. Non, je crois pas, parce que ce qu'est l'aventure au départ politique, macronienne ou macroniste, moi j'en fais partie depuis le premier jour, depuis avril 2016. C'était de dire, dans le moment qu'on vit, on était quelques semaines avant le référendum du Brexit, quelques mois avant l'élection de Trump. Dans le moment qu'on vit, il faut qu'on arrive à se réunir sur des sujets fondamentaux pendant un certain nombre d'années, en dépassant des clivages qui sont parfois un peu vieux. Je reprends l'exemple européen, pardon. Sur l'exemple européen, vous aviez des gens au sein des partis de droite traditionnels, l'UMP ou les LR aujourd'hui, qui étaient pro-européens, très anti-européens, et au Parti socialiste auquel j'ai appartenu à un moment, vous aviez des gens qui étaient super pro-européens. Moi, j'ai fait la campagne du référendum en 2005, et vous aviez la moitié du Parti socialiste qui était très anti-européen, enfin, moi, j'estime anti-européen, en tout cas, pour le nom, on va
être pour honnête. Ouais.
Bon, voilà. Donc, ça veut dire que c'était quand même un clivage sur un sujet essentiel, qui était au sein du PS lui-même, ou au sein de LR, UMP eux-mêmes. Moi, je n'aime pas l'idée qu'on a effacé les clivages, parce qu'il faut des clivages en politique. Et je pense que le macronisme était en 2016, et encore, un rempart, on peut parler de la suite,
est-ce
contre
pouvez,
l'extrême droite et contre le sentiment anti-européen. Et ça,
est-ce
c'était
que
pour
vous
moi
pouvez
très
me citer une mesure de gauche du gouvernement récemment?
Quand vous augmentez, par exemple, l'allocation adulte handicapé significativement, quand vous faites en sorte qu'il y ait le versement automatique des pensions familiales pour les femmes seules, qui souvent n'ont pas les pensions familiales parce qu'on avait aujourd'hui beaucoup de maris qui ne payaient pas et aucun système pour les sanctionner. On peut en prendre plein. Ça, c'est des mesures. Quand on prend des mesures sur les droits aussi, pas que sur le social, sur ce qu'on appelle le sociétal, la PMA pour toutes, c'est une super mesure progressiste.
Mais
c'est important. Quand on interdit les thérapies de conversion.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre jambe gauche est un peu courte par rapport à la jambe droite du gouvernement? Vous êtes un peu en minorité finalement. Parce que là, vous me citez des choses qui sont, oui, effectivement,
c'est important.
Des choses relativement progressistes et en faveur des droits des unes et des autres. Mais on voit bien qu'il y a quand même d'autres sujets sur lesquels les droits reculent, sur lesquels aussi, je veux dire, la situation sociale, le pays, la dette sociale dans laquelle vous allez laisser un pays qui est à l'abandon. Il y a des gens. La pauvreté ne cesse. Alors. C'est pas moi qui le raconte, je veux dire,
Il y avait la Fondation Abbé Pierre sur le plateau tout à l'heure.
L'INSEE a sorti un rapport accablant sur l'état des inégalités en France, sur l'état de la pauvreté. Mi-novembre, on a aussi eu un rapport du Secours catholique. Vous parliez des femmes en disant que vous avez fait des mesures pour les pensions alimentaires, etc. Bravo, mais on peut appeler ça une mesurette. Si, on appelle ça une mesurette.
Sur
je veux dire, vous trouvez pas qu'il manque quand même quelque chose de, une volonté, structurelle de vraiment porter une politique de gauche? Parce que si c'est juste pour avoir des petites mesurettes par-ci et par-là, et par ailleurs, vous parlez de l'allocation adulte handicapé, très bien, on est dans un moment d'inflation, ça vous a pas échappé. Par ailleurs, vous avez supprimé, vous avez réduit les APL. Enfin, il y a des choses qui sont quand même assez hallucinantes quand même. Mais bien sûr.
Les 5 euros, les APL, c'était une connerie au départ.
D'accord, mais il y a plein d'autres choses qui sont hallucinantes dans ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que comment vous, vraiment, sincèrement, vous pouvez vous regarder dans la glace le matin en vous disant « je suis de gauche » et aller tous les jours au Conseil des ministres et siéger avec des ministres qui sont clairement marqués à droite, comme Gérald Darmanin, comme Bruno Le Maire, et qui font des politiques néolibérales et qui ne sont absolument pas pro-progressiste ou pro-droit, etc.
La réponse de
Clément
Beaune.
Moi, je
ne
crois pas qu'on fasse des politiques néolibérales. On est le pays qui a le plus d'impôts en Europe et qui a le plus de dépenses publiques en Europe. Et moi, je ne critique pas, j'en suis fier, parce que ça veut dire qu'on a des services publics plus importants que dans d'autres pays européens. Il y a plein de dysfonctionnements. Ce n'est pas que l'argent, d'ailleurs, parce qu'on met souvent plus d'argent dans nos services publics et il y a quand même des inefficacités ou des gros problèmes. Les transports en font partie, hein, soyons honnêtes. Donc, ce n'est pas seulement mettre de l'argent. Bon. Mais c'est un vrai débat qu'on avait même au sein de la gauche, quand on est honnête, au-delà des étiquettes. Le mandat de François Hollande, il a été, c'est moi pour ça que je l'ai soutenu au départ, et que je ne renie pas ça, il a été un mandat où on a dit il y a une gauche, deux gouvernements social-démocrates, le centre-gauche, qui assume, qui a fait par exemple, ça a été fait par François Hollande, des baisses de charges sur les entreprises. On n'a pas dit pour autant qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hollande, enfin moi je ne le dis pas en tout cas, c'est une trahison de la gauche parce que ça crée des emplois. Et quand on crée, la meilleure politique sociale, ce n'est pas seulement les allocations c'est un filet de sécurité. Quand on a créé dans ce mandat depuis 6 ans 1 million d'emplois.
Non, mais il y a la réforme du chômage. Il y en a plein des réformes que je peux. Là, on parle aussi de réduire dans le temps les indemnités des seniors. Enfin, imaginez la violence de la proposition.
On n'a pas fait ça. L'assurance chômage, c'est un bon débat. C'est une question d'avoir réduit effectivement la durée d'indemnisation quand il y a encore un taux élevé de chômage.
Oui, mais ça règle pas le problème en fait. Les gens n'ont pas de travail parce qu'ils ne veulent pas travailler. C'est parce qu'en fait, il y a un gros problème de formation, il y a un gros problème aussi d'emploi, de disponibilité. Enfin, même en plus,
d'accompagnement.
Le gros problème de cette réforme, par ailleurs, elle a été réfléchie à un niveau national, alors qu'il y a des bassins d'emploi au niveau local. Ça n'a absolument pas été pris en compte.
Je suis d'accord avec ça, mais la réforme de l'assurance chômage, c'est pas une mesure antisociale. C'est l'idée qu'il faut mieux accompagner les gens et pas les laisser trop longtemps dans le chômage. Et qu'effectivement, quand vous n'avez pas intérêt, ce n'est pas une question de stigmatiser quelqu'un. Quand vous avez un travail qui ne paye pas comme l'allocation chômage, vous n'allez pas, quand vous avez des gamins de 5 ans, prendre le boulot. C'est normal, c'est rationnel pour protéger votre famille. Donc il faut aussi qu'on joue là-dessus, qu'on paye mieux, que le travail paye mieux. On a revalorisé, par exemple, la prime d'activité, qu'on crée des emplois. On a créé des emplois quand même avec ces réformes économiques depuis 6 ans. C'est le premier des droits sociaux et des réformes sociales, la première des réformes sociales qu'on a menées. Et il y en a une autre, puisque vous parlez de formation, qui me tient beaucoup à cœur. Ce n'est pas moi qui l'ai menée, mais je pense qu'elle est très importante collectivement. C'est celle de l'apprentissage. Moi, j'ai fait de l'Europe. On disait tout le temps, on est nuls, nous, Français, parce que par rapport aux Allemands, on ne sait pas faire de l'apprentissage. Il y a une belle réforme là-dessus, qui a été la réforme de l'apprentissage. Je ne rentre pas dans la technique, mais le résultat, c'est qu'on a on va avoir 1 million d'apprentis. On est entre 7 et 800 000. Là, on en avait 100 000 par an avant. Donc ça, c'est des gamins qui n'avaient pas de formation, et qui vont avoir une formation et un emploi. Et c'est valorisé. C'est à valoriser l'apprentissage. Donc, on peut avoir des accords sur des mesures, mais pourtant, on peut dire qu'on est néolibéral. Et parfois, on a des débats, c'est vrai, internes au gouvernement et à la majorité. Il y en avait aussi quand il y avait des majorités PS ou des majorités de droite.
Oh.
Plus ou moins, j'en sais rien, mais enfin, il y en avait.
On a une question de...
Et par exemple, entre la droite, quand vous aviez des primaires, ça se voyait, hein, entre Juppé et Fillon, c'était pas la même droite.
Ouais. Enfin,
et il y avait des accords sur l'Europe, sur les migrants. Ouais, un peu plus que des nuances. Donc il y a des débats, bien sûr. Et puis après, sur est-ce que vous êtes trop petit, minoritaire, vous parlez pas assez, vous les gens issus de la gauche. Moi je dis, quand vous êtes en politique, on gagne pas tous les combats. Mais il faut les mener, et parfois en interne. Et moi, par exemple, j'ai exprimé des positions personnelles sur certains sujets, sur la taxation des jets privés, sur la GPA. On aime, on n'aime pas. Mais parce que c'est des sujets sur lesquels je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Et après, je sais que c'est pas la position du gouvernement. OK. Et chaque jour, presque chaque jour, il faut se demander si on est plus utile à être là dans l'action publique et gouvernementale que si on ne fait pas. Je ne le ferai pas toute ma vie, mais je pense, pas de manière arrogante, mais que je participe à des choses sur les politiques publiques dont j'ai la charge, l'Europe aujourd'hui et les transports, que je mène des combats et j'en gagne certains qui me font avancer.
Claire.
Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le macronisme avait aussi vocation à être un rempart face à l'extrême droite. Ce qu'on constate depuis le début de l'arrivée au pouvoir de Macron, c'est pas exactement ça. C'est plutôt une progression assez importante de l'extrême droite et sa dédiabolisation, avec aussi des milices d'extrême droite qui ont une présence physique dans nos rues, désormais avec des ratonnades. On a vu 200 militants d'extrême droite faire des saluts nazis face au Panthéon il y a quelques jours. Donc, quelle est l'explication, selon vous, de ça ? Est-ce que le macronisme est effectivement un rempart à l'extrême droite encore ? Est-ce que vous pouvez encore vous revendiquer de cette position-là ? Ou est-ce qu'il ne faut pas lire dans le caractère peut-être trop de droite des politiques du macronisme aussi une des sources de cette progression de l'extrême droite ?
Alors ça, je ne crois pas, mais quand j'ai dit rempart, notamment la première élection, en 2017, l'élection, moi je suis convaincu, après c'est de la politique fiction, hein, que si on avait eu un deuxième tour Fillon-Le Pen, vu l'état de Fillon à ce moment-là, de la droite à ce moment-là, elle aurait pu gagner.
Oui, mais c'est un rempart qui est lié à un moment spécifique de la vie
politique. C'était quand même vachement important. On était dans un moment où le Brexit, on pensait que l'Europe allait se déliter. Neuf mois avant, il y a le Brexit. On a été courageux là-dessus. Pour moi, c'était un des vrais moteurs. On a mis des drapeaux européens dans le meeting. On a parlé d'Europe. On a dit on va réformer l'Europe. On a fait des choses. D'ailleurs, depuis 6 ans, j'en suis fier.
Oui, mais l'Europe, elle ne décrète pas. C'est aussi.
D'accord, je vous prendre des exemples de réformes. J'ai pris sur l'écologie, sur la lutte contre le dumping social, le travail détaché, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que l'extrême droite était déjà un danger en 2016 et en 2017. Et je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu une proposition politique nouvelle, progressiste, mais nouvelle. Emmanuel Macron, c'était un nouveau dans le paysage politique, un jeune, rafraîchissant, qui arrivait. Elle pouvait gagner. Et contre Mélenchon, Marine Le Pen, elle aurait gagné. Et si on avait eu Marine Le Pen-Mélenchon au deuxième tour la dernière fois, elle aurait gagné, j'en suis sûr.
Oui, mais par rapport à une situation...
Ce que je veux dire, c'est pas satisfaisant de dire ça. Mais oui, on a une responsabilité collective. Hein. Je vais vous dire, ça fait 6 ans qu'on est aux responsabilités, j'en fais partie. Je me réjouis pas que l'extrême droite ait monté. Je pense, je l'ai déjà dit, que c'est un combat générationnel. Et pour aussi les plus jeunes qui sont là, c'est un combat générationnel. Parce que malheureusement, dans tous les pays, on voit un extrémisme ou un nationalisme qui augmente, qui répond de manière démago, facile, qui profite aussi sans doute des réseaux, des fake news, etc., pour dire qu'il y a une réponse facile, populiste à tout. Crise climatique, vous n'avez pas envie de ces trucs-là, l'écologie, les bagnoles électriques, c'est cher, etc. Vous inquiétez pas, en fait, tout ça, c'est des bêtises. Le GIEC, il vous raconte n'importe quoi, on va démonter les éoliennes. C'est ça qu'elle dit, Marine Le Pen, sur l'écologie. Un parti aux Pays-Bas dit ça, en Italie, ils disent pareil, etc. Vous avez des problèmes de fin de mois, il y avait des problèmes de pouvoir d'achat, etc. C'est les immigrés, on va les mettre dehors, vous inquiétez pas. Il y a des problèmes de sécurité, c'est que l'immigration. C'est ça leur discours.
Oui, c'est un peu le discours de Darmanin, pardonnez-moi, mais quand même.
Pas en désaccord, mais honnêtement, non.
Ah bah c'est quand même beaucoup. Non.
Vous avez quand même une responsabilité particulière dans la mesure où, par rapport au second tour où Chirac avait affronté Le Pen, il y avait eu un mouvement immense dans le pays pour dire non à ça. Pour dire l'extrême droite est en dehors du champ républicain. Mais aujourd'hui, vous êtes en train d'acclimater l'idée que l'extrême droite peut être reçue au sein du champ républicain. C'est ça qui rend possible.
Et l'extrême droite n'est pour moi pas dans le champ républicain.
C'est pas clair pour l'ensemble de vos collègues, je pense.
Je crois pas, mais je vais être clair. Moi, je me suis engagé en politique. Je pensais pas avoir un mandat un jour, etc. C'était l'Europe pour l'Europe contre l'extrême droite, si je résume. Bon. Et je tiens ça. Et moi, quand on m'a interrogé au soir du premier tour législatif sur un plateau de télé en me disant « Vous avez vu, il y a plein de députés RN qui vont être qui vont être au deuxième tour. Vous faites quoi s'il y a un duel LFI ?» Moi, je combattais une députée LFI, donc je n'étais pas pour eux. LFI-RN. J'ai dit « Moi, je voterai toujours LFI. Pour LFI. » Ou pour quelqu'un d'autre qui soit contre le RN. Je regrette que LFI, entre-temps, soit devenu un parti, à mon avis, ultra radicalisé.
Vous considérez qu'ils sont sortis de l'arc républicain ?
Moi, j'aime pas trop l'expression parce qu'on distribue pas des brevets les uns les autres. Mais il y a des moments et des personnes, parce que je mets pas tout le monde.
Mais vous voterez quand même pour le second tour.
Comment ?
Vous voterez quand même LFI au second tour.
Ah, j'espère qu'on n'aura jamais, pour être honnête, un deuxième tour Mélenchon ou LFI-RN. Ça serait une catastrophe en soi. Mais oui, je le ferai, ouais.
D'accord.
Mais quand vous voyez, il y a des moments où franchement, c'est dur d'expliquer ça. Hein, parce que LFI ne nous aide pas beaucoup. Quand ils disent que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, moi j'ai un problème. Quand ils manient tous les jours, je suis à l'Assemblée nationale souvent, vraiment l'insulte, c'est quand même un énorme problème pour l'image de la politique. Et le sujet générationnel qu'on a à combattre, c'est que l'extrême droite, et c'est collectif, on a une part de responsabilité, mais c'est collectif, elle ne fait plus peur. Bon, il ne faut pas la banaliser.
Oui, mais la source de ça, elle vient d'où ? Elle vient des cravates à l'Assemblée, du fait qu'ils se sont institutionnalisés, mais elle vient aussi d'une manière que la Macronie a eue, de leur décerner des brevets de politesse. Enfin, c'est des expressions de Yael Braun-Pivet qui dit « Oui, c'est, ils sont très bien, ils respectent les règles du jeu démocratique. »
Il ne faut pas tout tomber dans ce panneau, je suis d'accord.
Mais tout ça, ça crée un cadre dans lequel on se dit « Bon, bah, finalement, l'extrême droite, ils ont leur place. Quoi. Non, c'est un parti acceptable, etc. »
Non, ils ne sont pas un parti comme un autre. Ils n'ont pas leur place. Oui, quand ils ont 89 députés qui sont élus, on ne va pas les chasser de l'Assemblée nationale. Mais en revanche, dire que l'extrême droite a un héritage qui vient du nationalisme, du fascisme, etc., il faut le redire. Et l'antisémitisme, vous avez raison. Et moi, je l'ai redit, ce n'était pas juste Jean-Marie Le Pen qui aurait été gentiment congédié par sa fille, tout ça. Elle a été sa candidate aux législatives. Elle a été sa directrice de campagne. Il y a son chef de parti, et ce n'est pas les anciens temps, c'est Jordan Bardella qui a moins de 30 ans, qui a dit « Moi, je pense que Jean-Marie Le Pen n'était pas vraiment antisémite, il a été condamné. » Bon, donc, il faut rappeler ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas séparer le combat, disons, éthique et moral, et dénoncer ça, et le combat des résultats, si je puis dire, parce qu'ils se nourrissent de la, de la désindustrialisation, des problèmes de pouvoir d'achat, des services publics, on n'a pas beaucoup parlé. Moi, je viens de la gauche, je suis ultra attaché aux services publics, j'étais à l'école publique, etc., je suis ultra attaché aux services publics. Et le service public des transports, il faut réinvestir dedans, par exemple, ou la santé,
etc. Les suppressions de postes dans l'éducation nationale, quand encore...
Oui, il faut les inverser, évidemment. Non, mais, et on est en train de créer des postes dans l'éducation nationale en ce moment.
Pas dans le PLF.
Pas dans le PLF.
Depuis 2017, on a créé des postes dans l'éducation nationale.
Avec les doublements des classes,
on a créé des moyens d'enseignement supplémentaires aussi. Et on va continuer. Le ministre l'a annoncé encore il y a quelques jours. Donc, mais il faut réarmer ou réinvestir dans le service public. Oui, c'est vrai. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je crois que les deux combats, ce qu'on dit parfois, il faut combattre, il faut arrêter de parler de morale et puis il faut se concentrer que sur les résultats ou l'inverse. Bon, les deux. Il ne faut pas banaliser l'extrême droite. Et on a tous une responsabilité. Moi, j'ai voté pour la première fois une présidentielle le 21 avril 2002. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai fait une manif, j'étais en Erasmus à l'époque, ils ont halluciné. À Dublin, on avait la une de Libé avec marqué non, on était 50 dans la rue, mais on a quand même voulu marquer le coup. Bon, donc ça, moi, ça a défini mon engagement, même pas politique, j'étais pas un élu, mais de citoyen. Et ça reste marqué en moi. Et je regrette qu'effectivement, mais c'est aussi une responsabilité, je renvoie pas la balle, hein, qu'on a tous, et qu'on a aussi, qu'on est encore jeune, je suis encore un peu jeune pour, en politique, pour les années à venir. Parce que quand il y avait, Le Pen au deuxième tour, on était tous dans la rue.
Pour préciser,
les jeunes, aujourd'hui, la marche, il n'y avait aucun.
On aura des questions sur les transports après.
Vous disiez tout à l'heure que, le gouvernement actuel, la majorité, était un rempart contre l'extrême droite. Qu'est-ce que vous faites concrètement, mais vraiment concrètement, hein, je ne parle pas d'idéologie ou autre, concrètement, au quotidien, pour faire en sorte que l'extrême droite recule dans notre pays?
Je vais vous prendre deux exemples. Justement, sur le terrain des résultats politiques et sur le terrain, j'allais dire, moral. Parce que je n'ai pas répondu à votre point sur les ministres. On est, je pense, le premier gouvernement, au moins depuis 20 ou 30 ans, à avoir dissous des groupuscules et des ministres d'extrême droite. Encore hier, en Conseil des ministres. Bon. Et d'ailleurs, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a fait. Je dois lui rendre hommage là-dessus. Il l'a fait. C'était courageux parce que juridiquement, c'est compliqué. Etc. On l'a fait. Et on a dit, on dissout un certain nombre d'organisations quand parfois elles sont violentes, islamistes, etc.
Oui,
on
dissout aussi des mouvements écolos, notamment.
Je ne rentre pas dans les soulèvements de la terre, mais ça n'empêche pas qu'on a dissous des ministres d'extrême droite.
Bon. Qui vont continuer, en fait, qui ne sont pas vraiment structurés juridiquement, mais qui vont continuer d'agir, de se réunir.
Il suffit de dissoudre pour régler le problème. Enfin, c'est un geste symbolique et pas que symbolique, ça les désorganise et puis il faut continuer. Il y en a d'autres qui se reconstituent et on peut dissoudre ce qu'on appelle des mouvements de fait, c'est-à-dire des associations qui n'ont pas forcément d'existence juridique, mais qui se rassemblent dans la rue ou qui appellent sur les réseaux sociaux à des actions, etc.
Vous pensez vraiment que ça allait déstructurer?
Bah, en tout cas, il faut le faire. Ne pas le faire, ça serait pire. Et il faut continuer. Il y a nos services de renseignement qui sont mobilisés contre l'ultra-droite, etc. etc.
L'extrême droite.
Ou l'extrême droite, mais oui, l'extrême droite.
Et les mêmes.
Et les ministres d'extrême droite. Mais vous avez raison. Mais donc, ça, c'est une mesure sur le terrain, j'allais dire, des idées, des valeurs et de la République. Bon, en étant intraitable là-dessus par la loi et par l'ordre républicain.
C'est un enjeu sécuritaire aussi.
Oui, aussi, bien sûr. Ça existe. Bien sûr. Et après. Ça, je le dis aussi, il n'y aura pas que ça qui va faire reculer le vote d'extrême droite, le vote notamment pour le RN ou le vote pour Zemmour. Et quand, moi je suis persuadé qu'ils se sont énormément nourris, notamment de la désindustrialisation et des pertes d'emplois dans des zones comme le nord de la France, comme l'est de la France. J'ai une mère qui habite dans les Bouches-du-Rhône, il y a un vote d'extrême droite énorme parce que c'était des petits bassins industriels, de l'emploi industriel dans les petites boîtes qui a été détruit par en partie une mondialisation mal régulée, etc. Je reviens pas là-dessus. Ils se sont nourris de ça. C'est ça leur terreau, notamment les anciennes zones industrielles. Ce n'est pas la baguette magique, mais quand vous recréez à Dunkerque, quand vous recréez à Saint-Étienne des emplois, bah c'est une pilule anti-RN. qui va mettre un peu de temps à faire son effet contre le poison, mais c'est une pilule anti-ARN.
On a des questions à vous poser aussi sur les transports. Je vais commencer avec celle des Jeux Olympiques. Alors, si je récapitule, donc c'est l'été prochain. Anne Hidalgo a assuré dans Quotidien que sur le volet transport ne serait pas prêt pour les JO. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a annoncé des hausses de tarifs pendant la durée de la compétition. Et vous, de votre côté, vous avez invité les Franciliens à se démerder, en gros. Si j'ai bien compris.
J'ai pas dit ça.
Pas merci,
vous l'avez
d'ailleurs.
Dit, vous l'avez dit plus poliment que ça, mais en gros, organisez-vous différemment. C'était...
Oui, prenez vos vacances au bon moment.
Se démerder, c'est faire les choses tout seul, on va pas faire comme ça.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe?
Ce qui m'a, moi, énervé dans la déclaration d'Anne Hidalgo, c'est pas qu'elle dise qu'il y a encore du boulot, même s'il avait dit le ministre des Transports est nul, à la limite, c'est la politique, c'est pas très sympa, mais c'est la vie. Elle a pas dit ça. Elle a dit on va pas être prêt. Ça, c'est, je le dis, hein, c'est grave.
C'est
vrai.
Si c'est factuel.
Bah, vous avez reçu un courrier là, du préfet de la région Île-de-France.
Ça, c'est la partie, il y a encore du boulot. Non, mais c'est important. Vous imaginez une seconde, toutes les villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques, heureusement d'ailleurs, ont été prêtes, de Athènes à Rio, en passant par Tokyo et Londres. Donc, évidemment, il faut qu'on réussisse les Jeux sur tous les aspects, la sécurité, des aspects qui sont entre les mains de la ville de Paris. Moi, quand cet été, ils ont raté la baignade dans la Seine parce que je ne sais pas ce qui a été mal organisé, un clapet qui n'a pas fermé, etc. Bon, on n'est pas allé dire « Ah là là, c'est nul », etc. On a dit « On va réparer ça ». Et on a chacun une responsabilité. Pécresse en a un bout, j'en ai un bout, Anne Hidalgo en a un bout, etc. Ouais. Bon, si on commence à dire « Moi, je fais un truc super bien », moi, je pourrais dire l'inverse. Je pourrais dire « Les transports, vous inquiétez pas, ça va être super ». Mais en revanche, ce que fait Mme Hidalgo, ce que fait Mme Pécresse, ça marche pas comme ça. On est la ville de Paris, c'est
vous
la ville.
Vous avez mis quelques taquets sur Twitter.
Oui, en réaction,
quand même,
vous noter parce qu'au moment, il ne faut pas pousser. Mais ce qui me choque, c'est on ne va pas être prêt.
Je pose la question.
Mais oui,
qu'on va être prêt.
Mais on a un engagement parce qu'on mélange les deux. Il y a des galères du quotidien, on va peut-être y revenir, mais c'est pas pareil.
Je vous confirme.
Mais c'est pas pareil que les Jeux parce que je ne veux pas qu'on mélange les choses. C'est suffisamment important. Les Jeux, on a pris un engagement qui est pour la première fois. Que pour tous les sites, il y a 25 sites en Île-de-France, on puisse aller 100% en transport public, pas en voiture, 100% transport public. Il y aura moins de monde qu'à une heure de pointe à Châtelet en ce moment pendant les JO, mais il y aura plus de monde que d'habitude l'été. On estime qu'il y aura 800 000 personnes par jour qui iront aux compétitions, etc., en transport public, et c'est ça qu'on veut.
800 000 par jour.
Ouais.
Il y en a combien là actuellement par jour, juste genre une
journée normale? Je vous prends un exemple, la gare du Nord chaque jour, les flux, alors c'est pas en même temps dans les trains, c'est 700 000 personnes, pour vous donner une idée. On ne sera pas aux pointes de septembre ou de ce qu'on connaît aujourd'hui avec le boulot, etc., mais on sera à des niveaux très élevés.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on fait? C'est une opération exceptionnelle. On n'a jamais eu une opération de transport l'été de cette ampleur en France. Donc on met des métros supplémentaires, on met des bus supplémentaires, on regarde site par site. Par exemple, Roland-Garros, Parc des Princes, c'est à côté, c'est la même ligne de métro, donc ça risque d'être saturé, on rajoute des bus, des choses comme ça. Donc c'est pas les transports, on réorganise un peu, on enlève à des endroits où il n'y aura pas beaucoup de monde, on rajoute des bus à d'autres endroits. Donc on ne peut pas comparer les JO tels qu'ils vont être et la vie quotidienne, qui est ma préoccupation principale d'aujourd'hui.
Et ça coûtera combien?
Et bien justement, ça a un coût, parce qu'on recrute des chauffeurs supplémentaires, on paye des primes, parce que les gens, ils n'auront pas de congés. Donc c'est normal qu'on parlait de services publics, les gens de la SNCF et de la RATP, moi je respecte ça, on va leur donner des primes, on négocie, bon, ce dialogue social est fait. Donc ça coûte à peu près, c'est 15% d'offres de transport en plus, un peu plus de métro, un peu plus de bus, et des gens à payer, ça coûte 200 millions. C'est ça le débat.
Qu'est-ce qu'il va payer? Parce que la promesse c'était que ce serait gratuit.
Alors, oui, mais gratuit, ça c'est pour l'usager final. C'est un coût organisé.
Vous avez un billet pour voir les JO, vous rentrez.
Oui, alors c'était ça qui a été envisagé. C'est ça qu'ils ont fait à Londres. Enfin, vous savez, c'est comme quand il y a une offre 2 en 1 ou 3 en 1. En général, on vous a monté le prix au départ. Donc, c'est jamais complètement gratuit. Mais Londres, ils n'avaient pas une offre 100% transport public. Il y avait moins de transport public que chez nous. Nous, il y avait à un moment ça, avant que j'arrive au ministère des Transports, il y avait eu cet engagement. Et puis les budgets ont augmenté. L'inflation, etc. Et on a dit, il y a plusieurs solutions pour faire face à ça. Soit on fait un impôt JO, on va pas faire ça. Non, mais évidemment non. Donc ça, on a exclu.
Ah, si faites ça, c'est vraiment tout
non,
va
non.
péter.
Bah, voilà.
Non. Ah non, mais voilà. C'est sûr à la révolution.
Donc c'est pour
là.
Ce genre de réaction qu'on n'a pas fait ça. Et donc, on a dit, par exemple, il y avait un truc qui coûtait 200 millions.
Ouais.
J'étais pas là, mais j'assume. C'est le coût des transports renforcé pendant cette période. Et je prends juste un exemple, je suis trop long. Mais si on voulait faire payer les 200 millions d'euros autrement qu'aux touristes, ça serait 6 euros de Navigo en plus toute l'année pour tout le monde. On ne veut pas faire ça.
Moi, je veux pas. Ce sera juste Navigo plus cher, mais pendant moins de temps.
Oui, mais pas pour les abonnés du Navigo. Si vous avez un Navigo annuel ou mensuel, ça ne bouge pas. Hein. Ça ne bouge pas, il faut le dire.
D'accord, je crois que ça allait augmenter pour les Français.
Pourquoi ça n'a pas été assez dit clairement? Ça ne bouge pas. Votre Navigo annuel et votre Navigo mensuel, il ne va pas augmenter avec les JO. Il
n'y
aura pas un Navigo à prendre pour les JO. Vous aurez votre... C'est pour la personne qui n'est pas francilienne, qui arrive là pour les Jeux. bah, elle va acheter un billet, ça coûte 10 euros par jour. Honnêtement, quand vous avez payé vos places pour les JO, etc., et l'hôtel, c'est pas indécent. Bon. Et de manière générale, d'ailleurs, je pense qu'on est très généreux avec les touristes qui viennent dans notre pays, qui ne payent pas beaucoup de taxes de séjour, ils ne payent pas beaucoup de billets de transport, etc. Donc, bon,
je pourrais les faire participer un peu plus, bien d'accord.
On investit dans cette période. Je prends juste un exemple, c'est la ligne 14. Je ne veux pas être trop parisien ou francilien.
Je vais vous en parler, monsieur le ministre.
Voilà, parce qu'elle est fermée en ce moment à certains jours.
Jusqu'en avril.
Oui. Bah, pourquoi on fait ça ? Pas que pour les JO, parce qu'elle est prolongée. Il y a une station supplémentaire. Non, mais on pourra aller en métro 14 automatique à Saint-Denis, une station de plus au nord, et à Orly, 7 stations de plus au sud. C'est des millions de personnes desservies en plus. Bon, bah, les travaux et l'amélioration du réseau dans 6 mois, ça ouvre en juin. C'est vrai que c'est emmerdant à court terme parce qu'il faut fermer.
On a un petit retard, on est d'accord sur la ligne 14.
Ah ben non, on n'a pas de retard parce que si on a retard, on a un problème. Donc je vous assure qu'on va la tenir en juin parce qu'elle doit être ouverte pour les Jeux.
Parce que les fermetures jusqu'en avril n'étaient pas annoncées à la base. On nous avait parlé jusqu'à décembre.
Non, parce qu'il y a un programme de test des trains qui est prévu jusqu'en avril.
C'est technique.
Et les fermetures, elles sont annoncées 3 mois à l'avance.
Toi, tu connais les plannings de fermeture.
Ouais, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Monsieur le ministre, je vais essayer vraiment d'être un petit peu cadré dans mon expression. C'est vraiment compliqué. Je salue vraiment toutes les personnes qui m'ont écrit en sachant que j'allais vous voir ce soir. Parce que j'ai vraiment tellement de choses à vous dire. Je vais vous raconter ma petite histoire personnelle. J'ai été victime d'un accident de voiture quand j'étais petit. Donc la voiture a été vraiment un traumatisme pour moi. Donc je suis un usager des transports. Sachez que je suis en train de passer le permis en ce moment et que je vais prendre une voiture, tellement les transports parisiens sont devenus en réalité aussi un traumatisme. Arrivé le matin sur le quai de la ligne 13, vous savez pas en fait ce que ça nous fait, mais vraiment, moi, je commence à très mal le vivre.
Pour les non-parisiens qui nous écoutent, la ligne 13, c'est la plus chargée du réseau.
C'est l'enfer, avec une ligne de métro. Je vais pas dire où j'habite, mais moi, pour rentrer chez moi, donc j'habite en banlieue, je pense que les habitants de banlieue souffrent de cette assignation à résidence. Pour rentrer chez moi, je dois prendre la ligne J. Du Transilien. Généralement, je mets 45 minutes pour partir de ce studio-là et rentrer chez moi. Je vais demander à Claire de dire au micro, Claire, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire combien de temps je vais mettre là pour rentrer chez moi ce soir ?
81 minutes.
81 minutes au lieu de 45 minutes. Pourquoi ? Parce que en ce moment, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, tous les soirs à partir de 22h, je n'ai plus de train pour rentrer chez moi et je dois prendre une navette qui rallonge mon trajet. C'est le cas pour des potes qui habitent dans le 93 et qui doivent prendre le RER, qui ont aussi un trajet qui est rallongé. Donc si on prend toutes les problématiques de métro, je pense à la ligne, je les ai notées tout à l'heure, la ligne 3, la ligne 6, la ligne 7, la ligne 8, la ligne 13 et la ligne 14, la 11, la ligne 14 qui était automatique et qui devait censée nous simplifier la vie. Si je prends ça, si je prends le RER, tous les jours, mais on ne parle pas de petits problèmes qui arrivent de temps en temps, on parle du quotidien. On parle, regardez aujourd'hui, là, vous l'avez appris en fin de journée, petite fuite d'eau à Châtelet, et puis il n'y a plus de RER, démerdez-vous pour rentrer. Donc, le métro, le RER, les Transiliens, vous nous parlez des JO, mais bordel, j'ai juste envie de vous parler du quotidien. Je m'en fous de savoir si c'est Hidalgo, Pécresse, vous. D'accord. Moi, tout ce qui m'importe, c'est quand est-ce que vous allez faire quelque chose, bordel. C'est tout.
Alors, je réponds là-dessus.
Oui, allez-y.
C'est vrai que c'est la galère. Alors, moi, je suis parisien depuis que je suis né. Le métro à l'heure de pointe, je prenais la 12 et la 3 quand j'étais étudiant, etc. Ça n'a jamais été génial à l'heure de pointe, soyons aussi honnêtes, parce qu'il y a le Covid entre-temps, et je ne dis pas que c'est justifié, hein, justifiable, je vais y venir tout de suite, mais on a toujours eu, depuis au moins 20 ans, un métro qui est très chargé le soir, trop chargé, etc. Bon. Et puis on a un réseau de métro qui, avec Londres, est un des plus vieux du monde, et donc on a des lignes super anciennes, et les investissements sont très compliqués pour changer. Bon. Il y a en plus, en ce moment, alors c'est à la fois une pire nouvelle et une bonne nouvelle, si je puis dire, énormément de travaux. Bon. Pourquoi ? Parce que, tant mieux, là, pour le coup, il y a un réinvestissement. Après pas mal d'années, on n'a pas assez investi dans le réseau, sur des lignes du Transilien, sur des lignes nouvelles, parce que vous avez parlé de la banlieue, ce n'est pas exactement où vous êtes, mais le vrai drame de l'Île-de-France, c'est que le choix historique, ça a été de faire tout converger de la banlieue vers Paris, de faire aucune connexion entre les banlieues, et donc de rallonger les temps de parcours, même quand ça marche, pour des gens qui galèrent énormément, qui vont du nord, de banlieue nord à banlieue sud pour bosser, etc. Bon. Toutes les lignes, ce n'est pas moi qui l'ai lancé, donc je le dis avec d'autant plus d'humilité, toutes les lignes du Grand Paris vont arriver entre 2024, donc la première, c'est la ligne 14 prolongée, l'année prochaine, puis 15, etc. Entre 2024 et 2030, c'est un doublement du réseau. Et là, pour le coup, je le dis aussi parce que c'est du métro moderne, automatique, qui n'a pas 100 ans comme... il n'y a pas 100 ans exactement, mais pas 100 ans comme certaines rames. Bon. Et il y a des lignes sur lesquelles il y a des investissements qui ont été retardés souvent, qui sont en train d'être mieux faits. Moi, j'ai fait un accord avec Valérie Pécresse, je ne vais pas trop dans le détail, mais pour lui apporter 1,5 milliard d'euros par an d'ici 2030 pour investir dans le métro. Alors, je vais être hyper honnête, ce n'est pas l'investissement que je fais aujourd'hui.
Qui va régler le souci demain, on est d'accord.
Je suis d'accord, et c'est le ministre des Transports de plus 2 ou plus 3 que vous inviterez, puis qui ira couper le ruban en disant « j'ai une ligne nouvelle ». Bon, bah tant pis.
Ce sera qui ?
Ben, je ne sais pas. Peut-être vous, je ne sais pas.
Ah non.
Mais c'est un métier compliqué. Hein. Ouais, ouais. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est du temps long, c'est compliqué. Les investissements qu'on décide, nous, eh ben, on les a souvent 5 ou 10 ans. Moi, je vais, si je puis dire, couper des rubans pour les gens qui ont lancé le Grand Paris. Je vais les remercier. Et ça a été attendu pendant 10 ans. La ligne 14 prolongée, ça a été attendu pendant 10 ans. Et là, on est dans la dernière droite de galère. Il y a une galère supplémentaire. Là, pour le coup, on peut la résoudre plus vite, qu'on a eu en 2022 et encore un peu. C'est qu'après le Covid, etc., on n'avait pas les effectifs nécessaires.
La fameuse offre de service.
Ouais, l'offre de service qui était réduite.
Ça. J'en peux plus d'entendre la petite voix qui me parle de l'offre de service.
Alors, ça s'améliore, ce que je regarde, des empreintes, ça s'améliore quand même beaucoup dans le bus, même s'il y a encore des galères par rapport à l'an dernier. Bon, on a moins de cas où vous aviez, on m'envoyait les photos, hein, où je le voyais à côté de chez moi, à Place Clichy, et 63 minutes, etc. Bon, pour un bus, c'est qu'un petit problème, c'est soit 6
vous
minutes.
Vous prenez des transports, vous ?
Le week-end, oui. Le week-end, oui, je prends la ligne 7, j'habite sur la ligne 7.
Je vais vous envoyer tellement de photos, monsieur le ministre, si vous saviez, c'est insupportable.
Mais allez-y, je vous assure qu'il y en a pas mal que... Bon, mais et donc je prends, et en plus, on m'envoie beaucoup de photos. Donc le bus, ça va quand même mieux. Les lignes de métro, il y en a plusieurs, 5 notamment, où c'est ultra galère encore, pas mieux que l'an dernier, et pas mal où ça s'est quand même amélioré par rapport à l'an dernier. Et on est en plus dans la période où on fait beaucoup de travaux, parce qu'on va les arrêter après avril pour les Jeux, et parce qu'on aura, j'espère, notamment sur la 14, rétabli les choses. Donc, je vais pas vous dire que c'est pas la galère. Je vais vous dire que ça serait, on répond à ça par l'investissement, parce que tous les gens, y compris parfois la mairie de Paris, etc., qui postent des photos en disant « Vous trouvez ça normal ?» Ben non, mais nous, on est des acteurs politiques. On n'est pas des gens qui semblent des lanceurs d'alerte. On est là pour répondre à votre problème. Et moi, je vous dis ce qu'on peut faire à court terme. Ça, c'est recruter plus, parce qu'il y a encore des manques d'effectifs. Et c'est investir plus. Et ça, ça ne mettra pas 6 mois ou 1 an, ça mettra 5 ans.
Et en attendant, pendant que d'autres dites « Faites mieux », vous, vous me dites « Tenez bon ». C'est ça.
Je dis aussi, on doit faire mieux. Non, je, Mélenchon là-dessus, je vais reprendre sa phrase une fois. Le « Faites mieux », ça s'applique à moi. Je ne vais pas vous faire le coup de Pécresse, machin, etc. Moi, Pécresse, ce n'est pas ma sensibilité politique. Quand je suis arrivé, on ne s'entendait pas très bien. Bon, j'avais beaucoup tapé sur elle pendant la campagne présidentielle parce que je bossais pour Emmanuel Macron. Bon, voilà, on a un petit passif. Bon. Au départ, c'était compliqué. Et puis, à la fin de l'année dernière, je ne vous fais pas tous nos épisodes amoureux, mais à la fin de l'année dernière, on s'est dit, bon, vous êtes madame la présidente de la région Île-de-France en charge des transports. C'est elle qui organise les transports. Et moi, je suis le ministre des transports, donc je suis un peu, déjà un peu des comptes à rendre quand même. On va trouver un accord. C'est un accord financier pour que vous investissiez. Parce qu'elle n'avait pas les financements pour ouvrir la ligne 14 automatique l'année prochaine. Il n'y avait pas assez d'argent pour les trains. Là, il y a 55 trains nouveaux qui arrivent, qui sont en production. Je suis allé les voir jour et nuit par Alstom. Et ils seront là pour les JO, mais évidemment, ils restent après les JO. Vous avez raison, l'horizon, ce n'est pas juste les Jeux. Les Jeux, on y arrivera parce que c'est autre chose. Mais ce que je veux... Ce sur quoi je veux qu'on soit prêt, c'est les transports du quotidien. Je sais que c'est galère, je sais que c'est galère depuis longtemps, que ça s'est dégradé après le Covid, qu'on remonte un peu la pente par rapport à l'an dernier et qu'il y a encore plein de galères sur le Transilien.
On a d'autres questions à vous poser, notamment sur la transition écologique, Claire.
Oui, autre grand événement qui a eu lieu à Paris, la COP de 2015, avec un accord entre 195 pays pour rester en dessous de la barre des 1,5 degrés. COP de Dubaï, on n'y est pas du tout, on est sur une trajectoire qui est fléchée entre plus 2,1 et plus 2,8 pour le moment. Et clairement, la France n'a pas totalement, même pas du tout, fait sa part dans ce travail-là, et notamment au niveau des transports. C'est la part la plus importante de ce qu'il faut qu'on fasse pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et on est encore dans une situation où on construit des autoroutes, où il y a un manque de financement lorsque...
Notamment la 69.
La 69 en particulier.
JO et 69, ça je savais que...
Voilà, c'est le tandem en ce moment. Mais notamment, et avec des manques de moyens juste financiers, par exemple les 13 projets de RER, il y a 9 milliards sur la table, il me semble, et un seul RER en coûte 7 au minimum. Donc, la responsabilité de la France aussi, qui a accueilli la COP, qui a scellé cet accord de Paris, enfin, je veux dire, comment vous voyez votre rôle et c'est quoi votre plan pour faire mieux ?
Bah oui, là, ouais, il faut faire mieux. Je veux quand même, je ne vais pas faire de la justification etc., permanente, mais c'est important. La France est le seul, cette année, enfin l'an dernier, en 22, pays du G7 qui a réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Pardon, sur le premier semestre 2023. Qui a réduit ses émissions
assez
de
vite.
Gaz à effet de
serre. Là, ce n'est pas une question
non,
de...
Non, mais je suis d'accord, pas
en fait,
assez vite.
Là,
mais...
c'est les petits pas, ça n'a plus
non, c'est
aucun
pas que
sens.
Des petits pas. On ne
peut pas compter sur Béchu, parce que de toute façon, il prend l'avion tous les jours.
Non, ce n'est pas sympa. Arrêtez, j'y reviendrai, mais
oui,
j'essaie de répondre sur le fond. Mais on est un des pays qui a un des mix énergétiques, comme on dit, une production d'énergie la plus décarbonée. C'est le débat sur le nucléaire.
Claire.
C'est clair que ça nous décarbonne notre énergie par rapport aux Allemands, avec le charbon,
ouais.
Le gaz. Bon, on en a beaucoup moins qu'eux. Et on fait mieux en termes de baisse. Bon, ça suffit pas. En gros, ce qu'il faut, c'est doubler le rythme. C'est doubler le rythme de baisse des émissions pour la France et pour les autres pays européens. Les autres, c'est encore plus. Bon. Et puis, de toute façon, moi, j'achète jamais l'argument de. C'est l'argument du RN, d'ailleurs. En France, on ne va rien faire parce qu'on est 1%, donc c'est les Chinois qui vont tout faire. Vous êtes plus fort quand vous faites, vous, en France, puis en Europe, puis à l'international.
Puis on a une petite responsabilité historique aussi.
Et en plus, on ne va pas faire exactement le compte sur 200 ans. Bon, voilà. Donc, il faut le faire. Les transports, c'est un problème au cœur de la transition écologique, j'allais dire partout, parce que les transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et depuis 90, j'étais pas là, mais depuis 90, c'est là qu'on commence la référence, c'est le 1990, c'est le seul secteur en France, en Allemagne, qui n'a pas baissé ses émissions. Bon. L'industrie, ça a baissé, alors surtout parce qu'on a fermé des usines, le logement un petit peu parce qu'on isole mieux, etc. Les transports, non, parce qu'on se déplace plus, bon, y compris en avion. Donc, il y a une responsabilité énorme des transports, ça, c'est clair. En même temps, c'est du quotidien, on n'a pas envie de se déplacer moins. Et on parlait des transports publics, mais 85% des Français, ils se déplacent, c'est un fait, aujourd'hui en voiture.
Mais ça, c'est un fait qui a une histoire. L'issue d'une histoire politique et de choix politiques.
Mais bien sûr.
Est-ce qu'il faut maintenir ces choix politiques?
Non,
du coup,
pas du tout. Il ne faut pas maintenir ces choix politiques, simplement, je dis, c'est la base de départ. Vous ne pouvez pas nier qu'aujourd'hui, c'est 85%.
C'est vrai, oui, non, c'est vrai.
Et donc, non, mais donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une voiture tous les jours pour aller chez le médecin, pour aller au boulot.
Donc, il faut leur construire des autoroutes.
Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est que dans la stratégie de décarbonation, j'y viens, c'est maximum de ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire passer de la route ou de l'avion au train. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ces RER métropolitains dans 13 villes. Je peux revenir sur le financement. Mais ça, c'est un gros projet. En fait, c'est comme le Grand Paris. C'est, on va faire des lignes de métro supplémentaires, des lignes de tram supplémentaires, des lignes de bus supplémentaires, mais pas que à Paris, où ça sera fait largement, à Lille, à Nantes, à Bordeaux, etc. Bon. Donc ça, c'est hyper important. Et ce n'est pas juste pour les gens dans les centres-villes, qui sont en général assez bien desservis. C'est pour les gens qui sont à 50 bornes ou à 80 km du centre-ville, qui, eux, sont les utilisateurs au quotidien de la voiture. C'était la France des Gilets jaunes. Eux, ils râlaient contre la taxe carbone et le prix des carburants, parce qu'ils disaient « mais moi, je n'ai pas le choix ». Il faut entendre aussi ça. Ce que je veux dire dans les 85% de voitures, c'est qu'on part de là. Et donc, on ne fera pas la décarbonation que en disant « demain, vous aurez les transports publics ». Parce que même si je construisais un réseau de transports publics super, à Paris, on y est encore après 15 ans de démarrage du Grand Paris, à Nantes, à Bordeaux, ça prendra au moins 10 ans. Même si
parce qu'il y a des retards et parce qu'il n'y a pas eu
assez de financement. Parce que même si vous voulez accélérer, il y a des choses qui ont été faites. Heureusement, vous allez à Bordeaux, il y a un tram qui a été construit. Vous allez à Montpellier, il y a un tram qui a été construit. Ce n'est pas rien passé. Parce que je veux dire, si on veut accélérer, il faut plus de transports publics. Il faut donc de l'offre aux gens, parce que sinon, on retombe dans ce que vous disiez. S'il n'y a pas de transport public, les gens, ils vont garder leur bagnole, surtout dans les zones où aujourd'hui ils partent d'un trajet en voiture. Et il faut être lucide. On ne va pas passer de 85% de déplacement en voiture à 20% en 10 ans. Bon. D'abord parce qu'on n'aura pas les bus et les métros. Donc il faut aussi qu'on décarbone la route, c'est la voiture électrique. Pour moi, ce n'est pas contradictoire de soutenir la voiture électrique et de soutenir les transports publics. On a besoin des deux. On peut se permettre d'écarter aucun levier. Et donc, la route d'hier ne sera pas la route de demain. Vous aurez une route avec du thermique aujourd'hui, de l'électrique demain.
Elle est accessible vraiment, cette voiture électrique, pour tout le monde?
Oui, alors pour moi, c'est un des combats de la transition écologique. Je ne vais pas vous faire tous les chiffres, mais dans mon budget, il y a 13 milliards d'euros. Les 8 milliards d'euros, c'est sur justement décarbonation à part le train, les transports publics, l'investissement dans le train de nuit, etc. Et puis, il y a 2 milliards d'euros, c'est sur le bonus écologique pour que ça soit moins cher d'acheter une voiture électrique. Aujourd'hui, c'est un produit de luxe, encore. Le bonus écologique, disons que ça le rend accessible à des gens qui sont, allez, on va dire classe moyenne supérieure, mais c'est encore très cher. Mais vous êtes un ménage modeste, un Français moyen, vous ne pouvez pas acheter l'électrique, c'est trop cher. Bon. Et donc, on va mettre en place une des mesures qui me tient beaucoup à cœur d'ici la fin de l'année, c'est le leasing social, où il y aura des modèles français et européens, surtout français, qui seront accessibles à 100 euros par mois. Là, ça change quand même la donne, parce qu'il y a beaucoup plus de Français qui vont avoir accès à la voiture électrique.
Quelles conditions ça, monsieur le ministre?
Il faut être dans les 50% de ménages français les plus modestes.
Okay. Dernière question, est-ce que vous allez annoncer l'abandon du projet d'autoroute à 69?
Non, ça ferait peut-être plaisir à certains, mais non, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Je vais vous dire, on va arrêter les projets autoroutiers. J'ai lancé, c'est la première fois qu'on le fait, justement, la revue des projets d'autoroute pour qu'il y a une petite dizaine de projets autoroutiers qui sont plus ou moins dans les cartons en France, et on va en arrêter certains.
Bon, dernier pour la route, quoi.
Non, ce n'est pas un dernier pour la route, c'est parce que je pense qu'il ne faut pas en lancer de nouveau, évidemment, parce qu'après, on a des décisions difficiles à prendre. Mais moi, je suis allé échanger avec les élus du Tarn, notamment. Et ils ne sont pas tous anti-écolo. C'est les besoins du quotidien, etc. Et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas juste pour une entreprise, etc. Tous les maires, les petits maires, etc., ils sont pour cette autoroute à 80%. Bon. Et ils me disent, mais attendez, il y a un moment, on parlait d'extrême droite, il y a un sujet de parole politique. Le Premier ministre Jean Castex, j'étais dans son gouvernement, je n'étais pas encore ministre des Transports, il est venu Deux fois, il nous a dit deux fois, l'autoroute, elle arrive.
Alors, c'était pareil avec Notre-Dame-des-Landes.
Oui, d'accord, mais
promis,
je pense...
Ça a été surpromis, ça a été surpromis, repromis.
Parce que le truc, c'était tellement enlisé qu'on ne pouvait plus avancer.
Et là, la tour de 69, ce n'est pas enlisé ?
Non, ce n'est pas enlisé, je ne crois pas. Et c'est important parce qu'on peut penser ce qu'on veut de ce projet autoroutier là ou pas. Il faut en faire moins, il faut en arrêter certains, il ne faut plus en lancer. Ça, je suis entièrement d'accord, et mettre notre argent sur les transports publics. En considérant qu'il y aura quand même besoin de crédit pour la route, parce qu'il faut entretenir des routes et... Les routes avec des voitures électriques. La 69, j'aimerais bien qu'elle soit justement l'autoroute exemplaire, avec des cars express, avec des péages qui soient beaucoup moins chers, voire nuls pour les voitures électriques, etc. On peut faire ça aussi. Ce n'est pas la même autoroute aujourd'hui et il y a 50 ans.
Bon. Et vous pouvez le faire sur les autoroutes existantes ?
Oui, d'accord. Il faut le faire aussi sur les autoroutes existantes. Mais avec un projet nouveau, vous mettez de nouvelles règles, un péage, etc. Donc, et ça n'empêche pas. Donc ce que je veux dire, c'est que la route, ce n'est pas l'ennemi, c'est la décarbonation en soi. On va faire les deux. On va aussi décarboner la route. Ça, c'est super important.
Mais cette autoroute, elle ne peut déjà pas être exemplaire. Il y a eu des centaines d'arbres qui ont été abattus en cours de route. Il y a un problème de biodiversité, alors, pas seulement de décarbonation.
Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il en faut moins au total. Après, il ne faut pas non plus faire de la 69 le symbole de tout le réchauffement climatique mondial. Il y a 200 arbres...
Il y a Christophe Béchu aussi.
Il y a 200 arbres qui ont été... Vous êtes dur. Il y a 200 arbres qui sont abattus. Des arbres, ce qu'on appelle d'alignement, les beaux arbres qui sont le long des routes. Bon, on en replante 5 fois plus. Un arbre ne vaut pas un arbre parce qu'un jeune, ce n'est pas comme un vieil arbre, etc. Okay. Mais vous savez combien on plante d'arbres chaque année dans le Tarn, le département et l'autoroute ? 45 000. Donc, que ça soit bien ou mal, on peut en discuter. Mais on ne peut pas dire que c'est l'A69 qui est la source de tous nos maux et le symbole de tous nos maux. Ce n'est pas vrai. Après qu'il faille arrêter de lancer les projets autoroutiers, on est d'accord parce qu'il y en a qui ont été lancés. Tous ceux dont on parle aujourd'hui qui sont en débat, ils ont 20 ou 30 ans. Donc si on veut préparer l'avenir dans 20 ou 30 ans et pas se retrouver à avoir que des mauvais choix, entre renier une parole ou faire des choix qui sont discutables, eh ben, il faut qu'on change vraiment de modèle.
Merci Clément Beaune d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Bex.
Merci à vous.
Vous pouvez l'applaudir, merci beaucoup. Clément Beaune, je vais vous laisser quitter le plateau.
Merci.